La Méridienne.
Il est l'heure de parler littérature et pour ça, on est en compagnie de notre libraire Bertrand Lamure. Bonjour Bertrand.
Bonjour à tous. Bon alors moi je suis désolé, je n'irai pas du côté des auteurs béninois.
Ah.
je n'en ai pas proposé aujourd'hui, même si la programmation a l'air d'être très très alléchante et en particulier voilà la rencontre de jeudi autour de l'histoire du Bénin et du Dahomey.
Ouais.
Donc alors moi je retourne sur des choses plus classiques, etc.
Tu nous avais donné rendez-vous pour la rentrée littéraire, tu nous avais dit.
Ouais, la rentrée littéraire
aujourd'hui.
Alors je commence avec une rentrée littéraire poche.
Ouais.
Voilà. Parce que du coup, il y a aussi des rentrées littéraires poches. C'est juste un qui doit être mis en avant, parce que évidemment, c'est la chouchou de la librairie depuis très longtemps. Et Aujoie vient de sortir en poche Les Sources de Marie-Hélène Lafont.
Mmh.
Et alors là, bah, évidemment, là, c'est sûr que ça réjouit tout le monde. Alors bon, évidemment, ça réjouit tout le monde, on ne va pas non plus s'emballer, puisque le sujet... une fin fond du Cantal, une ferme et un homme assez violent, voire très violent avec sa famille. Mmh. Mais l'écriture est somptueuse, ce coin perdu du Cantal l'est encore plus. Donc si par hasard, voire par malheur, vous n'aviez pas lu le grand format, c'est le moment de vous rattraper avec le poche, Les Sources, Marie-Hélène Lafont.
Mmh.
Alors, nous sommes partis dans la semaine dernière, j'évoquais déjà quelques grands coups de cœur et donc je continue. Alors, je continue d'abord avec Corinne Royer. Corinne Royer, j'en avais peut-être parlé sur cette antenne avec Pleine Terre. C'était un titre qu'elle avait sorti chez Actes Sud en 2021 qui évoquait un paysan de la Saône-et-Loire qui est à bout parce que voilà, endetté, gestion administrative, et on va assister à ses derniers jours avant qu'il se tue. C'est un livre très 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 intéressant. Là, on part à Bucarest, en Roumanie, avec une famille de Zigane.
Okay.
Alors, je ne cache pas qu'au début, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ce truc? Et en fait, j'ai trouvé ça très, 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 très bon. Ça s'appelle « Ceux du lac » et c'est aux éditions du Seuil. C'est une famille de Zigane qui vit aux marges de Bucarest, dans une sorte de no man's land, comme une sorte un peu de jungle urbaine ou périurbaine. Et cette famille, qui est plus totalement une famille, la mère n'est plus là, les enfants s'autogèrent parce que le père est un petit peu out.
Ouais.
Et dans cette vie un peu hors du temps qui mène, un peu comme des enfants sauvages, bon, à un moment donné, la ville de Bucarest et l'Europe aussi veut complètement restructurer cet espace de jungle, de friche, pour en faire un haut lieu écologique, etc. Et cette famille va devoir partir. Et qui dit partir, on dit, ok, on vous reloge dans un HLM de banlieue, machin. Et du coup, on va suivre cette famille. Alors déjà dans ce lieu qui paraît à la fois une sorte de paradis parce qu'il y a une grande liberté, on voit bien aussi que c'est pas si simple que ça. Et Corinne Royer arrive très bien à saisir à cette ambiance nature, cette ambiance un peu déglinguée, etc. Ce qui fait que c'est des personnages qui sont magnifiques, surtout voilà deux trois enfants dans cette fratrie, et on suit ça avec un énorme intérêt, plaisir. Bon, c'est pas tous les jours rieurs, mais en tout cas, très très belle écriture de Corinne Royer, Ceux du lac, aux éditions du Seuil. Complètement différent. Alors peut-être que je vous ai parlé sur cette antenne, mais j'en suis sûr, de Camille Pascal. Alors Camille Pascal est un auteur qui publie chez Robert Laffont, et c'est un auteur qui est toujours tourné autour des romans historiques.
Okay.
Et c'est quelqu'un qui creuse beaucoup, qui fait beaucoup de recherches. Donc c'est toujours précis, intéressant. On apprend toujours beaucoup de choses. Il avait fait, par exemple, l'été des 4-3, c'était sur l'été 1830, avec le départ de Charles X, etc. C'était très, très bien fait. Et là, il revient avec La Reine du Labyrinthe. Alors, La Reine du Labyrinthe...
Quel labyrinthe
c'est tout simplement le labyrinthe de Versailles avec notre chère Marie-Antoinette.
D'accord.
Et pendant le fameux règne de Marie-Antoinette, avant les grands drames, il y a eu l'affaire du collier. Et l'affaire du collier, c'était une affaire... on a tous vaguement ce souvenir que ça avait un petit peu chauffé. Et en fait, là, il revient sur cette affaire où, en fait, Marie-Antoinette n'est ni plus ni moins que le jouet de conspiration, de courtisans, etc. Mais malheureusement, ça va être très, très négatif pour elle, pour sa renommée, et puis pour ce qui va suivre après. Et donc Camille Pascal, toujours pareil, avec beaucoup de détails, vraiment on apprend plein de choses, c'est passionnant, sur cette période du règne de Louis XVI, sur la reine, et sur tout cet univers derrière de courtisans, de personnes qui sont prêtes à tout pour avoir un peu de fric, pour être présentées à la cour, Ça n'a pas tellement changé.
J'ai failli le dire.
mais en tout cas, Camille Pascal, la reine du labyrinthe chez Robert Laffont, toujours ceux qui aiment les romans historiques, c'est passionnant. Moi, je propose maintenant un petit polar.
Allez,
petit polar, c'est pas du tout péjoratif, puisque c'est Benoît Cévrac. Alors Benoît Cévrac, on l'a vu déjà dans pas mal de romans noirs ou autres. Il y en avait un qui s'appelait Tuer le fils, qui était très très bon. Et là, il revient avec Le bruit de nos pas perdus. C'est aux éditions La Manufacture des Livres, très 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 bonne maison d'édition, et on apprécie beaucoup son éditeur Pierre Fourneau. Et là, on se retrouve dans une brigade, on est à Versailles, une brigade qui va enquêter classiquement sur plein d'affaires. Là, il y a un suicide qui n'était pas si évident que ça. Et du coup, le commandant qui s'appelle le commandant Cérissol a un doute. Alors derrière, en fait, deux, trois affaires qui vont suivre. Ce qui est très intéressant, c'est en fait la vie de cette brigade. Et là, Benoît Cévrac, il a le côté enquête, etc. Mais j'ai trouvé qu'au final, le plus intéressant, c'est comment vit cette brigade. Quels sont leurs rapports, quelles sont leurs tensions. Et c'est ça. Très souvent, on a quand même une vision de loin de comment vit une brigade, mais c'est souvent l'affaire qui prend le dessus. Et là, c'est plus l'inverse. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était très, très bien ficelé pour ça. Le bruit de nos pas perdus de Benoît Cévrac aux éditions La Manufacture de Livres.
Très bien.
Je retourne un peu du côté historique. Alors, peut-être que Radio Calade connaît les éditions du Penseur, P-A-N-S-E-U-R, qui est dirigé par Jérémy. Et Jérémy, alors c'est une maison d'édition qui a vocation nationale, mais coup de bol, Jérémy habite à Jassan.
Ok.
Tout de suite. Voilà. Et donc c'est une maison d'édition qui a 5 ans, qui a connu une fulgurance en quelques années.
C'est un joli avec nom,
l'édition du Penseur, tout à fait. Il fait des choix très très pertinents, une maison d'édition. Et donc celui dont je vais vous parler maintenant s'appelle Terre Promise de Bénédicte Dupré-Latour. Nom de famille, on connaît parce que sa sœur jumelle fait entre autres du roman graphique. Elle est lyonnaise. Et avec Terre Promise, elle nous emmène aux États-Unis, période un peu de conquête de l'Ouest, mais surtout conquête de l'or. Donc milieu du 19e siècle. Alors c'est un roman principalement féminin. C'est principalement des personnages féminins qu'on va suivre. Alors, c'est pas rué vers l'or en mode comte de Monte Cristo, il a découvert un trésor, il devient richissime. C'est malheureusement pas tout à fait ça, parce que ça va être des personnages qui vont être très abîmés, des femmes qui se prostituent, il leur arrive mille aventures. Mais alors la manière dont elle le traite, la langue qu'elle aborde, la construction littéraire qu'elle fait, donne de ce roman quelque chose d'assez extraordinaire, avec vraiment des... Quand on lit un roman, certains romans, pour ma part, au bout de quelques jours, j'ai déjà un peu oublié les personnages. Et quand on a ce genre de roman où les personnages, un mois, deux mois, trois mois après, sont encore bien identifiés dans notre mémoire, moi, je trouve toujours que c'est assez extraordinaire parce que ça veut dire que voilà, la personne a réussi un peu à nous vriller la tête avec des personnages qui nous ont marqués. Et c'est le cas dans Terre Promise où on a ces personnages qui sont vraiment, c'est âpre, ça peut être dur. Il y a de temps en temps un bel arc-en-ciel, mais c'est quand même un peu compliqué. Terre Promise, édition du Penseur de Bénédicte Dupré-Latour.
Et c'est un premier roman.
Et c'est un premier roman, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Je continue. Alors, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être assez religieux comme roman, mais j'ai trouvé qu'en fait, ce n'était pas que religieux, loin de là. Frédéric Gros, qui est un éditeur qui a déjà écrit plein de choses, il nous fait un roman chez Albin Michel qui s'appelle « La première histoire », où on suit Saint-Paul. Alors, Saint-Paul, on le connaît soit très bien, soit très vaguement par rapport à l'histoire du christianisme. C'est un des premiers qui a suivi, qui a été touché par Jésus et tout ce qui suit. Et on sait que Saint-Paul a beaucoup navigué dans la Méditerranée pour apporter, entre guillemets, la bonne nouvelle. Et en fait, là, c'est sur des voyages qu'on lit en Anatolie, donc en Turquie. Et en particulier avec une femme qui s'appelle Théoclia, qui est subjuguée par l'homme, qui est subjuguée par ses paroles et qui abandonne tout pour le suivre. Okay. Elle a existé, elle est considérée comme l'une des premières martyrs du christianisme. Et j'ai trouvé ça très intéressant en dehors de l'aspect catholique, chrétien plutôt, pas catholique, qui peut être intéressant, mais plutôt sur ses parcours d'hommes, de femmes. On est au 1er siècle après Jésus-Christ, donc c'est aussi une autre vision du monde. Et du coup, on suit cette à la fois, on est entre le monde juif, le monde chrétien, le monde romain, donc le monde païen. Très intéressant à suivre, comme un roman, comme une épopée. Ça s'appelle « La première histoire » de Frédéric Gros.
Super.
Et je termine, parce que je suis persuadé que je suis encore 2 minutes. je termine en fait avec Étienne Kern. Alors Étienne Kern, j'en avais certainement parlé, puisqu'il avait, en 2022, il y avait eu un roman qui s'appelait « Les Envolés », où il racontait l'histoire d'un type qui faisait des inventions et autres, il était persuadé qu'il avait inventé un nouveau parachute. Et il s'est dit, tiens, je vais le tester, je monte en haut de la tour Eiffel et je tente. Bon. Okay. On a un petit film qui est resté assez célèbre, où en fait il se jette et il se scratch. Ouais. Et Étienne Kern avait fait un roman à la fois sur cet homme, à la fois savoureux, presque drôle, mais en même temps effectivement un peu pathétique. Et là, Étienne Kern revient avec un homme qui a été aussi célèbre que Gandhi, Einstein, etc., qui a côtoyé des milliardaires, qui a été reçu à la Maison Blanche, qui a été une star aux États-Unis, qui est un Français et qui est avant tout pharmacien. Évidemment, c'est la colle, qui fait. Et bien, c'est le fameux Monsieur Coué. Parce que tout le monde connaît la méthode Coué.
Ah oui, la méthode Coué.
Et oui, c'est la petite, tous les matins, tu dois te répéter, tout va bien, je vais bien, Radio Calade va bien, etc. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Donc toujours avec la même verbe, le côté taquin, le côté très intéressant, le côté qui a, avec un vrai sens, une vraie interrogation sur cet homme, qu'on a totalement oublié aujourd'hui, mais qui est resté marqué dans les imaginaires avec la méthode Coué. Cet homme qu'on a perdu de vue, mais qui a eu un immense succès dans les années 20-30. Et du coup, c'est très, très intéressant la manière dont Étienne Kern aborde ce personnage qui va bien évidemment au-delà d'une biographie. Et l'info quand même essentielle, c'est qu'il vient à la librairie la semaine prochaine, jeudi 19 à 19h.
Très bien.
C'est chouette.
Étienne Kern, La vie meilleure, et le rendez-vous est demain.
Aux éditions Gallimard, pardon. Il est sélectionné dans la liste du Goncourt, du Renaudot. très très content pour Étienne qui fait un voilà un joli travail littéraire.
Parfait. Merci beaucoup. Bah,
je crois qu'avec ça, j'ai envie de dire que la semaine est une semaine de rêve.
On a une semaine bien remplie, s'il faut tout lire pour la semaine prochaine.
ça serait bien, Mathieu.
Bon. Merci encore une fois, Bertrand. À la semaine prochaine, alors.
À la semaine prochaine et belle semaine à tous.
Très bonne journée, à bientôt. La Méridienne.